On se dit tout sur France Bleu, Ségolène Aluni.
On parle donc de la cause animale, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps et qui interpelle de plus en plus de citoyens. Vous en faites peut-être partie d'ailleurs. Vous vous sentez sensibilisé par la défense des droits des animaux. Vous militez pour la cause animale en participant à des manifestations. Vous êtes devenu bénévole pour la SPA ou pour des organismes qui protègent la faune. Ou bien alors vous menez un combat plus passif, entre guillemets, mais qui influe sur votre quotidien. Par exemple, vous êtes devenu végétarien. Alors racontez-nous pourquoi un jour vous avez décidé d'arrêter de manger de la viande. Comment vous engagez-vous en faveur de la cause animale? Quel a été l'élément déclencheur? Racontez-nous votre combat ce soir au 0810 055 056. On se dit tout sur la cause animale. Et pour vous écouter, une représentante de l'association L214, Isis Labruyère, qui est avec nous jusqu'à 22h. Bonsoir Isis.
Bonsoir.
Alors, piqûre de rappel, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'association L214, ça parle certainement à beaucoup de monde. Hein. On se souvient notamment de l'affaire sur un abattoir du Vigan, c'était il y a un an, en février 2016. Mais la L214, c'est quoi exactement, Isis ?
C'est une association de protection animale, principalement orientée sur la défense des animaux destinés à la consommation humaine. Mmh. Donc on s'est donné pour mission de révéler ce qui se passe dans les élevages, dans les abattoirs français, pour justement qu'on puisse ouvrir un débat de société, on l'espère, sur la question animale et notre rapport aux animaux à l'heure actuelle.
Voilà, alors c'est pas qu'une simple association de défense animale, puisque vous questionnez aussi les droits qu'ont les animaux dans notre société.
C'est ça.
Par rapport finalement aux droits d'un être humain.
Oui, on est une asso qui se dit antispéciste, parce qu'on aimerait bien qu'un jour
C'est quoi l'antispécisme ?
L'antispécisme, c'est de ne pas considérer que l'être humain a une valeur en lui-même, sa vie a une valeur supérieure en elle-même à celle des autres animaux, puisque l'être humain est une espèce animale. Et on aimerait une société où tous les individus, qu'ils soient des espèces animales ou de l'espèce humaine, puissent vivre libres et non pas dans ce système comme on connaît aujourd'hui, qui est un système finalement qui les réduit en esclavage pour notre intérêt.
Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Isis Labruyère, à vous engager pour les droits des animaux ? Ça fait combien de temps que ça dure ?
Ça fait peut-être 7 ans, 6-7 ans que j'ai commencé à militer auprès d'associations justement qui donnent à voir ce qui se passe dans les élevages et les abattoirs. J'étais végétarienne déjà depuis bien longtemps avant, mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit finalement, ces animaux-là, c'est les plus nombreux, les animaux qu'on va manger, c'est 99% des animaux qu'on fait naître. Et j'avais une sensibilité particulière, voilà, j'aimais bien les animaux, comme pas mal de gens, je pense. Et je me suis dit que c'était pas très logique de les mettre dans notre assiette si on voulait pas leur faire de mal.
Et ça a été quoi le déclic, du coup, parce que c'est pas venu tout de suite ?
En fait, j'ai grandi à la campagne et je voyais les animaux autour de chez moi, de mon jardin, monter dans les camions, partir à l'abattoir, les mères qui étaient malheureuses d'être séparées de leurs petits. Et tout ça, ça a contribué justement à cette prise de conscience, de se dire il y a quelque chose d'anormal dans la manière dont on fait subir ça aux animaux simplement par plaisir, parce qu'on aime bien les manger alors qu'il n'y a pas de nécessité à l'heure actuelle.
Ça fait boule de neige. Et vous qui nous écoutez, peut-être que vous avez eu un déclic comme Isis, vous vous investissez dans la cause animale jusqu'à à quel point et surtout comment l'avez-vous concrétisé ? Témoignez ce soir sur France Bleu, on se dit tout sur la cause animale avec notre grand témoin, Isis Labruyère, membre de la L214.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
Et on parle de la cause animale, un sujet pas simple hein, qui tire souvent sur la corde sensible puisqu'il peut toucher à notre alimentation. Vous avez décidé du jour au lendemain, par exemple, de ne plus consommer de viande, non pas que vous n'aimiez pas ça, mais tout simplement parce que vous ne cautionnez pas les méthodes d'abattage, par exemple. Une façon, parmi tant d'autres, de s'engager pour la cause animale. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à agir ? Comment se manifeste votre combat au quotidien ? On attend vos témoignages ce soir. On se dit tout avec notre témoin Isis Labruyère, qui est notre invitée et qui est membre de l'association L214. Alors justement, Isis, on se dirige en région parisienne, puisque c'est Christina qui nous appelle ce soir. Bonsoir Christina.
Bonsoir.
Alors bienvenue sur France Bleu, Christina. Vous êtes avec nous puisque vous êtes devenue végane.
Oui, tout à fait.
Donc une forme de militantisme pour la cause animale. C'est vraiment pour ça, du coup, que vous ne mangez plus de viande ?
Effectivement. Donc j'ai été sensibilisée à la question animale il y a un an et demi maintenant, presque 2 ans, par des documentaires sur lesquels je suis tombée complètement par hasard. Donc un documentaire qui s'appelle Terrien, qui est assez vieux maintenant, mais qui parle vraiment de toutes les formes d'exploitation animale. Mmh. Et à la suite de ce documentaire, je me suis renseignée davantage et donc j'ai découvert aussi d'autres associations de protection animale telles qu'L214 en France. Et voilà, j'ai petit à petit j'ai appris qu'effectivement les animaux sont vraiment des êtres sensibles, alors qu'on les traite de manière vraiment atroce. Il y a des choses qui se passent qu'on ignore complètement l'existence. Donc tout ce qui concerne l'industrie laitière par exemple, ou le gavage par exemple. Les consommateurs eux-mêmes ne sont pas forcément au courant de ces pratiques-là.
Alors, vous parlez justement de l'industrie laitière. Vous êtes devenue végane, hein. C'est pas seulement végétarienne. Végane, c'est encore plus radical, si je peux dire. Isis, du coup, on rappelle la différence pour ceux qui connaîtraient pas forcément.
Donc, végétarien, c'est ne pas consommer de chair, ce qui inclut aussi la chair des poissons. Et végane, c'est avoir un mode de vie. Ça va un petit peu au-delà de l'alimentation. Donc, on consomme végétalien, c'est-à-dire sans aucun produit d'origine animale. Mais en plus, dans notre mode de vie, effectivement, on refuse de cautionner, donc d'acheter des produits qui ont entraîné de l'exploitation et de la souffrance animale.
Donc ça veut dire qu'on ne porte plus de cuir, voilà, ni de fourrure, éventuellement.
On fait attention que les produits ne soient pas testés sur les animaux. Ce qui se passe dans les laboratoires, c'est pas non plus très beau à voir. Mm-hmm. On fait attention aussi au niveau des divertissements, de ne pas aller voir des zoos qui enferment les animaux.
Ah, c'est une philosophie de vie,
voilà,
en fait.
C'est vraiment un mode de vie. Les cirques, pareil, avec tout le dressage des animaux sauvages, qu'on trouve aussi assez révoltant. Voilà, c'est tout un mode de vie.
Christina, est-ce que vous expliquez votre choix quand on vous demande pourquoi vous êtes devenue végane?
Tout à fait. Je l'explique par exemple à table ou parmi mes collègues ou dans ma famille. J'explique tout à fait le chemin que j'ai eu moi pour me rendre compte de ce qui se passe, de ce qu'on fait vivre aux animaux. Simplement en disant qu'en fait, ce qu'on fait vivre aux animaux, c'est un cauchemar qui n'est pas nécessaire, qui est évitable et qui entraîne énormément de souffrance. Alors, si quelque chose fait souffrir autrui et c'est quelque chose qu'on peut éviter, alors pourquoi ne pas le faire ?
Et du coup, vous avez cette philosophie, comme en parlait justement Isis Labruyère, vous évitez d'aller dans les zoos, d'aller voir du cirque ?
Tout à fait. Tout
ouais,
à fait.
C'est vrai.
Ça c'est quelque chose qui est arrivé plus tard. J'avais même pas réalisé j'avais même pas réalisé ce problème-là de tout ce qui concerne les cirques et les zoos. Mais effectivement, c'est des animaux qui sont sensibles et qu'on prive de leur liberté. Et les dressages sont extrêmement violents également pour les animaux. Donc c'est quelque chose dont on peut se passer. C'est pas un divertissement qui est plaisant pour tout le monde. Donc pas pour les animaux.
Alors, se passer du cirque, ça peut être peut-être plus facile pour certains que de se passer de produits carnassiers. Est-ce que ça a été compliqué de passer la barre, justement, Christina, d'éliminer tous ces produits de votre consommation alimentaire ?
Oui, alors au début, j'ai pris quelques mois. Donc, pour la viande, ça a été assez rapide pour moi, la viande. C'est les produits laitiers sur lesquels j'ai eu un peu plus de mal. Mm-hmm. Donc, j'ai pris quelques mois. J'étais végétarienne pendant quelques mois. Le temps que je me renseigne, autant que je change mes habitudes. Donc petit à petit, à l'extérieur, j'étais végétarienne et à la maison, je suis devenue végétalienne. Donc j'ai commencé à explorer la cuisine végétale, etc., etc. Donc j'ai pris quelques mois pour changer mes habitudes et petit à petit, j'ai éliminé les produits laitiers, les œufs et tout ça. Et je me suis rendu compte à la fin que je manquais de rien et je trouvais des alternatives végétales totalement gourmandes et je me régalais et je me suis dit, ça y est.
Et vous vous sentez comment aujourd'hui, Christina ?
Aujourd'hui, je me sens super bien. Je me sens en ligne avec mes valeurs morales. C'est vraiment, je dirais, la meilleure décision de ma vie aujourd'hui parce que vraiment, ça a été pour moi une vraie libération. Et quand j'ai pris ces décisions-là, je me suis posé la question, mais comment j'ai pu passer autant de temps de ma vie sans voir cette injustice dans laquelle on vit aujourd'hui. Et du coup, de là où c'est venu pour moi le besoin immédiat d'être active et de parler aux gens, parce que moi, je crois profondément que les gens ne sont pas torsionnaires d'eux-mêmes. C'est pas quelque chose qu'on veut faire aux animaux. Personne veut faire souffrir les animaux. C'est juste qu'on manque cette information-là. Donc, on n'est pas sensibilisé, on ne sait pas ce qu'on fait subir aux animaux à chaque fois qu'on consomme des produits animaux. Et donc, pour moi, c'est important d'informer les gens à ce sujet-là.
Ça a été une vraie révélation. Donc, du coup, vous en parlez autour de vous sans faire forcément de prosélytisme ?
Non, j'ai pris le chemin, je pense, de la sensibilisation à travers de la nourriture, parce que je pense que ça, c'est un moyen très, très intéressant. Je cuisine de plus en plus. Depuis que je suis devenue végétalienne, j'ai vraiment découvert la cuisine végétale qui est surprenante et vraiment géniale. Donc j'amène tout le temps des plats à faire goûter aux amis ou je les invite chez moi. Et puis je parle aussi beaucoup, beaucoup de, bah, des associations de protection animale telles que L214 par exemple. Parce que beaucoup de gens sont finalement très sensibles à la cause animale.
Ouais, eh bien, merci beaucoup Christina pour ce beau témoignage. Donc une révélation de devenir végane, ça fait plaisir à entendre, j'imagine, quand on est membre de la L214.
Ouais, merci Christina.
Et du coup, Christina qui parle vraiment d'un combat personnel, c'est pour ça que je parlais de prosélytisme, parce que parfois, quand on fait du prosélytisme auprès des gens qui mangent de la viande, par exemple, ça peut faire l'effet inverse aussi.
Oui, bien sûr, il ne faut surtout pas accuser qui que ce soit. De toute façon, c'est une société qui traite mal les animaux, ce n'est pas une responsabilité individuelle. Il ne faut pas pointer du doigt un comportement individuel. Chacun, effectivement, est sur le chemin vers plus ou moins de respect pour les animaux. Souvent, on manque d'informations, comme le disait Christina. Et il faut donc informer, montrer ce qui se passe et que cette information circule, tout simplement. Il n'y a personne qui a une mauvaise volonté envers les animaux, à part quelques rares exceptions. Les gens sont plutôt bien intentionnés quand même. Et simplement, ils ne connaissent pas forcément les alternatives végétales, par exemple, ou ils ont peur de carences. Donc, il y a beaucoup de mythes autour des carences de l'alimentation végétale. Ça, c'est dommage. Mais effectivement, bien cuisiner et en faire partager ces petits plats à ses amis, c'est aussi une belle manière de montrer que c'est bon, que c'est possible, qu'on se prive de rien, même quand on est végétalien ou végane.
Alors vous aussi, vous vous investissez pour la cause animale, ça ne concerne pas que de devenir végétarien, effectivement, vous pouvez peut-être vous engager pour par exemple récupérer des chevaux et les soigner, c'est ce que va nous dire Béatrice qui va témoigner dans un instant. Et vous aussi, vous avez épousé la cause animale pour des raisons éthiques ou philosophiques, parlez-nous de votre combat ce soir au 0810 055 056 auprès d'Isis Labruyère qui est notre invité, membre de l'association L214. À tout de suite.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout. Ségolène Aluni.
Alors, c'est quoi pour vous être engagé pour la cause animale? Vaste sujet ce soir, puisqu'on pense évidemment aux conditions de traitement dans les abattoirs, mais aussi aux animaux abandonnés qui finissent dans les refuges, à la disparition de certaines espèces à cause de la pollution, voire du braconnage. Vous avez toujours déploré les faits, mais un beau jour, vous avez décidé de passer à l'action en vous engageant, en devenant bénévole ou pourquoi pas famille d'accueil pour animaux, ou en participant à des voyages éco-citoyens. Racontez-nous votre parcours et votre démarche. On se dit tout sur la cause animale ce soir, en compagnie de notre invitée Isis Labruyère, membre de la L214, association de protection animale. Et comme promis, donc, nous rejoignons Béatrice ce soir, Béatrice qui nous appelle de Corrèze. Bonsoir Béatrice.
Bonsoir Ségolène.
Alors, bonsoir. Vous militez depuis plus de 30 ans.
Oui.
Pour la cause animale et en l'occurrence celle des chevaux que vous récupérez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oh, mais ça fait plus de 30 ans entre les chats, les chiens, et puis propriétaire de chevaux, cavalière, amoureuse de ces beaux animaux. Je me rendais compte que les chevaux, lorsqu'ils deviennent âgés, lorsqu'ils ont des pathologies, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives, malheureusement, que la boucherie. Les refuges pour chevaux sont bien moindres que les refuges pour chats ou pour chiens. Et voilà, donc j'ai commencé à récupérer des chevaux un petit peu cassés et abîmés par la vie, pour différentes raisons. Et puis cela fait près de 30 ans que j'en récupère, que j'en place beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup de connaissances, d'amis, et j'arrive à en placer pas mal, bien sûr totalement bénévolement, la question ne se pose pas, puisque la protection animale est souvent égale à bénévolat. Voilà.
Ah oui, on a Isis qui hoche de la tête, effectivement. Et du coup, c'est beaucoup d'investissement, Béatrice. Oui. Comment on fait pour agencer son temps et se donner pleinement à cette cause animale? Surtout que ça fait 30 ans que vous faites
très
ça.
Tôt. Il faut se lever très tôt, se coucher très tard et pas regarder trop la télé, mais écouter France Bleu et la radio. Voilà.
Ah voilà, oui. C'est une bonne alternative. Merci Béatrice, elle a des actions chez nous.
Les chevaux que j'en ai une dizaine actuellement, ont tous des pathologies diverses. Hein, pour ceux qui s'y connaissent, c'est soit naviculaire, soit de l'emphysème, soit de la taxie, soit fourbure, ils ont chacun des pathologies qui fait que pour des raisons diverses, leurs propriétaires ne pouvaient pas les garder. Voilà. Et c'est vrai qu'un cheval acheté en boucherie, c'est le prix au kilo. Et voilà. Donc les propriétaires ou certains clubs, mais bon, à tous. Hein, bon, il y a quand même beaucoup de clubs qui gardent leurs vieux chevaux jusqu'à leur fin de vie. Mais c'est vrai que c'est un problème. Les chevaux, c'est un problème. J'englobe chevaux dans équidés, hein, c'est-à-dire chevaux, poneys et ânes.
D'accord.
Parce que les ânes, c'est pareil, c'est assez catastrophique.
Et ça, c'était devenu un besoin pour vous, vraiment, d'agir, Béatrice ?
Un besoin, oui, sûrement. Sûrement une certaine forme d'équilibre aussi, parce que je crois que lorsqu'on s'occupe d'animaux, on s'occupe aussi des gens, hein, parce que derrière un animal, il y a toujours une personne. Il y a toujours un avant, malheureusement. Et voilà, oui, sûrement un besoin, certainement. J'ai d'autres activités à côté, mais sûrement un besoin.
Et aujourd'hui, donc, comment on se sent ? Parce que j'imagine aussi, Laïsis, je pense pas que vous allez me contredire, quand on se bat pour une cause, ça nous donne, mine de rien, une raison d'exister. Et du coup, pour vous, Béatrice, est-ce que c'est salvateur ? On se sent mieux dans sa peau ? Qu'est-ce que ça vous donne comme philosophie ?
Oui, enfin, vous savez, le regard d'un animal ne trompe jamais, hein. Et le regard d'un cheval, je ne sais pas si vous connaissez les chevaux, mais le regard d'un cheval et l'attitude d'un cheval ne trompent non plus jamais. Voilà, c'est très clair. Alors c'est sûr que c'est toujours à deux sens, hein. Comme tous les rapports humains, hein, ils sont à deux sens. C'est-à-dire, moi je donne, mais ils me donnent beaucoup. Donc c'est vrai que ça apporte un équilibre de vie. Moi j'ai un métier à côté assez prenant. Voilà, donc c'est vrai que ça, comme je vous dis, c'est levé très tôt. Là avec le froid, c'est aller voir des fois, deux fois dans la nuit pour voir s'il y a toujours de l'eau courante, remettre des couvertures, voilà. Et c'est pour ça que je tire un grand, grand chapeau aux gens qui se lancent pour la protection des chevaux et qui récupèrent des chevaux parce que c'est... Voilà, un chat, un chien, c'est génial hein, de les récupérer, mais on arrive à les mettre dans une grange ou dans une maison. Un cheval, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, voilà. Ça demande plus de place et encore plus d'investissement. Merci beaucoup, Béatrice.
Oui, merci à vous pour votre émission, c'est génial. Merci.
Eh bien, écoutez, on continue comme ça. D'ailleurs, on a tout plein d'appels et vous aussi, hein, si vous voulez témoigner, tout comme Béatrice qui nous a appelé de Corrèze, 0810 055 056. Juste avant d'accueillir Pierre, Isis, La Bruyère, un mot, une réaction par rapport au témoignage qu'on vient d'entendre. C'est fort quand même comme témoignage, s'investir comme ça pendant.
C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. De recueillir des animaux, surtout des chevaux. Voilà, ça demande énormément de travail. Donc, je lui tiens mon chapeau, cette dame. C'est les chevaux qu'elle a recueillis ont beaucoup de chance d'avoir croisé sa route. Parce que c'est vrai que la plupart, malheureusement, n'ont pas cette chance et finissent à l'abattoir.
C'est une grosse dévotion dont on vient d'entendre parler. Allez, tout de suite, nous allons dans l'ouest de la France et nous sommes avec Pierre. Pierre qui veut parler des animaleries. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Alors,
pour parler de cause animale, il serait bon de faire un petit tour pour se rendre compte de tout ce qui se vend en animalerie et où les gens achètent sur un coup de tête ou en cadeau pour les enfants. Et puis quelques mois ou quelques jours ou quelques années après, ils n'en veulent plus parce qu'on déménage, parce qu'il y a toujours une raison pour se débarrasser des petits animaux qu'on a achetés en animalerie. Donc là, il ne s'agit pas de chevaux comme la personne avant, mais... Ouais. Et il faut pouvoir les placer est devenu au fil des années un refuge, mais un refuge à un moment donné où il y a saturation, quoi. Donc on peut plus, quoi. Et là, justement, en entendant votre émission tout à l'heure, pas plus tard que hier, par mail, on m'a encore proposé des fameuses tortues aquatiques qui se vendent dans les animaleries, qui ont remplacé les tortues américaines. Ce sont des tortues d'Afrique.
Parce que vous êtes président d'une association, Pierre ?
Ouais,
d'un centre ?
Voilà, ouais, j'ai la responsabilité de plusieurs associations environnementales, mais une particulière qui est un peu plus sur la découverte et en même temps le recueil d'animaux qui peuvent être abandonnés, trouvés sur la voie publique, ou voire même saisis par l'administration, lorsqu'elles sont dans de mauvaises conditions, quoi.
Et quand est-ce que vous en êtes venu à ça, justement
Je suis tombé dedans tout petit. Hein.
Ah, d'accord.
Je suis un vieux de la vieille, donc ça date pas d'aujourd'hui. L'association, elle existe depuis 89.
Voilà, d'accord.
Voilà. Bon, au début, c'était pas du tout une asso avec des récups, mais au fil des années et au vu de tout ce qui se vend en animalerie, mais à Noël, un mois avant Noël, c'est les aquariums sont remplis de tortues aquatiques africaines, donc celles-là, quand elles seront remises dans la nature, elles sont sûres de mourir. Les américaines qui se vendaient il y a 10, 12, 13 ans maintenant, bon, celles-là, elles vivent très bien dans la nature en France, donc on nous en ramène aussi, des fois, trouvées sur la route.
On met en danger aussi les espèces animales.
On met en danger les autres espèces qui sont locales, quoi. Tortues aquatiques, ben nous on a de la cistude en bas de la Charente, là, à partir de la Charente. Donc si on apporte de la tortue dite de Floride, il n'y a pas que ça, hein, y a plein d'espèces américaines qui sont des prédateurs sur le milieu naturel, qui mangent nos animaux de nos mers, voilà.
Ouais. Voilà, et maintenant, Pierre, du coup, comme ça fait 27 ans que vous militez en faveur de la cause animale, est-ce que vous avez constaté une évolution positive ou négative, du coup
Négative. Négative. Ça continue à vendre et ça continue à acheter. Sans réfléchir, un coup de tête, on a gagné au loto, on a un peu de sous, on achète une tortue, on achète, mais pas pour soi, des fois, on achète ça pour le gamin. Bon, ben, le gamin, à 4-5 ans, il voit sa tortue pendant 8 jours, et après, c'est les parents qui gèrent l'aquarium. Alors, je parle que de tortue, mais il y a des serpents, il y a des lézards, il y a des iguanes, quand ça devient trop grand, ça meurt, ça, donc on n'en veut plus. Voilà, on déménage. Bon, il y a toujours une excuse qui n'est pas bonne.
Et vous-même, Pierre, vous n'avez pas d'animaux domestiques chez vous?
Ah, on a un chien, un vieux chien, là, et ma fille a deux chats, donc voilà.
D'accord. Ouais. Donc vous êtes un ami des bêtes.
Ah,
et
bah,
j'imagine que...
Animaux, je suis né dedans. Voilà, donc, mais moi je suis plus intéressé par un monde que les autres n'aiment pas, donc tout ce qui est un peu... qui fait peur, quoi, reptiles, araignées,
ouais.
Voilà. Mais c'est des animaux qu'il faut défendre aussi, et donc ça fait des années que je les défends, quoi.
Isis La Bruyère.
Bien sûr, mais par contre, ce que vous disiez, vous avez un chien, votre fille a des chats, les problématiques sont un peu les mêmes. Quand on achète dans une animalerie, finalement, ce que vous dénoncez sur les reptiles, bah, c'est pareil sur les chiens et les chats, c'est-à-dire que souvent c'est un coup de tête, et puis les vacances arrivent, on ne sait pas quoi faire du chien, des chats, du chat, on le laisse sur le bord de l'autoroute. Voilà, c'est, les refuges débordent d'animaux aussi au mois d'août, c'est aussi une catastrophe. Il faut vraiment maintenant qu'on comprenne que les animaux, c'est pas des objets, c'est pas des cadeaux, ça demande vraiment mûre réflexion quand on vit avec un animal, et il faut les adopter et non pas les acheter, surtout que dans les animaleries, vous n'avez pas parlé du trafic, mais il y a quand même énormément de trafic aussi, que ce soit sur les espèces exotiques, mais aussi même sur les chiens et les chats. Ça alimente aussi tout un trafic qui est vraiment monstrueux quand on regarde les conditions de vie des mères, les sevrages prématurés des petits, etc. Donc tout ça pour avoir des prix au final toujours plus bas, qui fait qu'on achète de plus en plus facilement des animaux qu'on abandonnera donc de fait de plus en plus facilement aussi.
Donc s'engager pour la cause animale, ou du moins s'y sensibiliser, c'est peut-être aussi réfléchir avant de consommer.
Ne pas acheter des animaux, en fait, c'est pas des choses, c'est pas des biens de consommation. Par contre, recueillir des animaux qui étaient abandonnés, les refuges en sont pleins, donc autant accueillir ceux qui sont là, qui sont déjà vivants, plutôt que d'en faire naître d'autres misérables qui auront des vies aussi peut-être pas très drôles. Donc voilà, plutôt adopter que d'acheter.
Ouais, alors on parle ce soir de votre engagement pour la cause animale. Peut-être que vous vous êtes réveillé un jour et vous vous êtes dit, tiens, je vais me lancer dans la structure d'une association, je vais faire des dons, signer des pétitions. Peut-être que ce sont des choses que vous faites régulièrement. Vous êtes devenu végétarien ou vegan, on a eu des témoignages ce soir. Continuez donc de nous appeler. On est curieux de savoir de quelle façon vous vous investissez en faveur donc de la défense des droits des animaux. La cause animale, c'est notre thème ce soir. On se dit tout avec Isis La Bruyère de l'association L214 au 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et on se dit tout ce soir sur la cause animale. Vous aimez tellement les animaux que vous vous êtes engagé pour eux. Bénévolat, pétition, manifestation, intégration, voire création d'associations. Comment en êtes-vous venu à vous engager pour la cause animale? On écoute vos témoignages ce soir avec notre grand témoin Isis La Bruyère, qui est membre de la L214. Et comme promis, direction Marseille. À Marseille, où nous retrouvons Saïd. Bonsoir Saïd.
Bonsoir.
Et Isis La Bruyère vous écoute ce soir. Saïd, vous avez un parcours assez particulier puisque vous êtes restaurateur.
Tout à fait.
Vegan. Et vous avez monté un restaurant vegan.
Absolument.
Alors racontez-nous, comment tout ça est venu? Ça s'est imbriqué comment?
En fait, comment c'est arrivé? Donc c'était ma passion, la cuisine et la musique évidemment. Alors, à un moment donné, on change de métier comme j'ai fait, et on prend une autre direction, et je me suis dit, pourquoi ne pas vivre de ma passion qui était la cuisine.
D'accord.
Et donc, pourquoi ne pas créer un restaurant, mais pas n'importe quoi. Donc, un restaurant dans lequel on mangerait ce qu'on aime et surtout avoir un clin d'œil pour les animaux. Donc,
parce que vous étiez déjà végane avant ça.
J'étais végétarien. Végétarien. Donc, je mangeais pas d'animaux, mais je mangeais les œufs, encore les œufs, le fromage. Mm-hmm. Je mangeais.
Et pourquoi vous êtes devenu végétarien, Saïd ? On remonte vraiment aux sources. Hein. Ça vient d'où ?
En fait, c'est vraiment le respect des animaux, vraiment. Parce que quand j'étais petit, j'ai été élevé avec les animaux. J'en ai ramassé des chats abîmés, j'ai des chiens perdus. J'étais vraiment très proche. C'était un peu plus que mes amis. C'était ma famille. Donc après, c'est resté tout ce moment d'enfance. Mmh. Et donc j'ai eu un poussin aussi quand j'avais 5 ans, je me rappellerai toute ma vie de ce poussin qu'on m'a offert, qui a grandi, qui devenait un énorme coq.
Oui, du coup vous avez vraiment une relation privilégiée avec les animaux, du coup. Absolument. Vous étiez végétarien. Et donc, voilà. Vous avez monté ce restaurant vegan, c'est génial, enfin c'est vraiment énorme comme comme élan c'est... vers la cause animale, pour le coup.
C'était un peu risqué, c'est vrai. J'ai pas dit à la banque que j'allais ouvrir un restaurant vegan. J'ai dit tout simplement que c'était végétarien. Et parce que j'avais besoin d'un peu d'argent quand même. J'avoue, je savais pas trop aller à cette époque-là. Il y a une dizaine d'années, vegan, c'était un mot barbare pour les gens. Même végétarien, on le prenait pour une secte. Mm. De suite, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous mangez? Jusqu'à aujourd'hui encore, hein, y a des gens qui disent, mais ça veut dire quoi, végétarien?
Oui, ça se fait rare quand même. Globalement, ça a bien évolué quand même. On voit de plus en plus de restos vegan qui ouvrent un peu partout. Ça devient plus facile de manger.
Content, ouais. Quand j'entends de plus en plus de gens, et puis le mot vegan qui s'impose de plus en plus, et les gens ils commencent à comprendre. Bon, c'est vrai que en France on est un peu moins vegan, on connaît un peu moins ce mot-là par rapport aux anglophones, par rapport aux Allemands, même les Italiens. Souvent quand il y a des vacances en Italie, j'ai beaucoup d'Italiens qui viennent manger chez moi. Donc c'est vrai que on a encore un peu de retard par rapport à ces pays-là.
Et votre restaurant marche bien du coup, Saïd?
Écoutez, ça fait 9 ans qu'on est là, donc on travaille plutôt pas mal. Il y a pas mal de commentaires, de très bons commentaires sur nous. Moi, je suis très content d'avoir été jusqu'au bout de ce projet, parce que c'est un projet engagé, il y a de l'écologie, c'est local, c'est économie solidaire, c'est aussi biologique. Donc c'est tout un tas c'est un projet vraiment qui englobe beaucoup de choses et ça marche.
C'est un beau projet, d'autant que oui, il y a 9 ans, Saïd, ça devait être compliqué quand même à mettre en place. Enfin, vous l'avez dit par rapport aux banquiers, mais il y a 9 ans, c'était pas du tout, même vegan, personne connaissait ce mot.
En France, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de retard par rapport à d'autres pays européens ou par rapport aux États-Unis. Moi, j'ai une petite question pour vous, Saïd. Est-ce que vous connaissez l'initiative d'L214 qui s'appelle Végoresto?
Oui, il y a quelques personnes de cette association qui viennent de temps en temps chez moi. Il y a même d'autres associations défense des animaux qui viennent chez moi. Je connais pas tous les détails, mais je sais que on m'a parlé souvent. Il y a pas mal de sites. On m'a mis souvent d'ailleurs. Je savais même pas. Il y a Facebook aussi. Il y a pas mal d'endroits où je suis. Que j'y découvre en temps en temps, bien sûr.
Végoresto, ça permet de référencer tous les établissements de restauration qui font du végétal. Donc ça peut être des restos véganes bien sûr, mais aussi des restaurants plus traditionnels où il est quand même possible d'avoir au moins une entrée, un plat et un dessert 100% végétal. Donc n'hésitez pas à vous faire référencer si c'est pas encore le cas. Voilà. Et puis j'invite les auditeurs à consulter Végoresto quand ils veulent se passer de viande pour un jour ou pour toujours. Sur Végoresto, c'est simple de trouver un restaurant près de chez soi où on puisse manger comme ça.
Ben voilà, Saïd, faut se connecter maintenant avec notre invité Isis. Et du coup, c'est un système de référencement où il y a de la notation aussi ou pas du tout?
Alors on peut effectivement laisser des commentaires là où on a mangé. Et tous les restaurateurs, donc on a un peu plus de 640 pour l'instant restaurants en France qui sont référencés, se sont engagés à avoir de façon pérenne à leur carte entrée, plat, dessert, végétal. C'est pour tout le monde. Ça permet justement de pouvoir manger n'importe où et d'épargner des animaux.
Voilà, merci beaucoup Saïd pour votre appel depuis Marseille et bravo donc pour cette belle initiative, un restaurant vegan lancé il y a presque 10 ans. C'est vrai que c'est assez beau. Merci pour ce témoignage. Dans un instant, nous serons avec Sylvain qui, alors lui, ça n'a rien à voir, il n'a pas de restaurant, il est horticulteur et il élève des animaux, il est flexitarien, on rappellera ce que c'est par la même occasion. Et si vous aussi, vous engagez pour la cause animale, de quelque façon que ce soit, eh bien prenez la parole ce soir. La cause animale, c'est notre thème dans On se dit tout au 0810 055 056.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
Protéger la planète et les animaux, c'est peut-être le combat que vous vous êtes fixé il y a quelques jours, quelques mois ou même quelques années. Ça a été une révélation. Vous vous êtes découvert défenseur de la cause animale. Venez vous confier ce soir dans On se dit tout au 0810 055 056 avec Isis Labruyère qui est notre invitée, qui nous fait le plaisir d'être là jusqu'à 22h. Isis Labruyère, membre de la L214. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir.
Bonsoir Sylvain, vous êtes dans la Marne et vous êtes horticulteur.
Oui.
Vous élevez des animaux et vous êtes flexitarien. Alors, on va définir ce qu'est le flexitarisme, c'est comme ça qu'on dit, Isis ?
C'est comme ça qu'on dit. Le flexitarisme, c'est le fait de réduire activement sa consommation de produits d'origine animale, donc de viande.
D'accord.
Par rapport à une consommation standard, où un Français moyen mange de la viande à peu près tous les jours, un flexitarien, c'est de temps en temps, pour ses repas, s'en passer. Et même certains flexitariens sont quasiment végétariens, c'est-à-dire qu'ils ne mangent que très rarement de la chair.
Est-ce que c'est votre cas, Sylvain, du coup ? Où vous mangez certains animaux et pas d'autres ?
Certains animaux, pas d'autres, oui, ça c'est vrai. Maintenant, c'est aussi en fonction des saisons. Donc, je suis horticulteur, je cultive des végétaux, des légumes, des fruits. Donc, mon alimentation est essentiellement basée sur le végétal.
Super.
En fonction des saisons, en hiver, par exemple, ça c'est à titre personnel. J'ai autant de jugement de valeur que les végans qui ne consomment pas du tout d'animaux. Moi, c'est une question de plaisir. Et tout à l'heure, Isis de Labruyère parlait de nécessité. Il n'est pas nécessaire de consommer des animaux. C'est vrai, mais oui. Le plaisir est également nécessaire. Et c'est comme ça que je pense. Et je ne me prive pas de manger de consommer des animaux. Maintenant, en hiver, je prépare des conserves, j'ai une réserve de conserves, mais sinon, ma nourriture est essentiellement basée sur le végétal.
Alors, Sylvain, du coup, ça, j'imagine que ça fait pas mal d'années que vous élevez des animaux, que vous êtes dans ce secteur-là.
Oui, depuis tout le temps.
Depuis toujours. Et à quel moment, du coup, vous vous êtes dit, bon, je vais devenir flexitarien et vous vous érigez un peu contre la surexploitation animale ?
Alors là, oui, tout à fait. Contre la surexploitation animale et aussi pour l'exploitation d'une seule race d'animaux, c'est-à-dire la race qui rentre dans les races d'animaux qui rentrent dans les abattoirs, c'est-à-dire qui sont standardisées à un poids bien défini. Là-dessus, je suis totalement contre, malgré que je comprends mes confrères horticulteurs lorsqu'ils rouspètent, pour dire ça gentiment. J'arrive à comprendre leur mécontentement. Néanmoins, je milite aussi pour la préservation des races anciennes, l'élevage des races anciennes, pas seulement pour les consommer, mais aussi pour les échanger entre fermes. Et ça, c'est le maintien de la biodiversité de l'espèce animale. Et c'est pas forcément pour les manger, c'est aussi pour fabriquer du compost. C'est aussi pour ça. Et puis pour maintenir un microbisme actif et très riche au sein de l'environnement de la ferme.
Et du coup, vous êtes devenu flexitarien à quel moment, Sylvain ?
Petit à petit. J'ai commencé mon métier en agriculture conventionnelle et par conviction agronomique. Petit à petit, je me suis mis à cultiver en agrobio. Et puis le flexitarisme, c'est pareil. C'est petit à petit, j'ai trouvé de moins en moins nécessaire de consommer de la viande trop souvent. Et puis tuer un animal en été, ça rime strictement à rien. Vous allez me dire le tuer en hiver, ça n'arrive à rien non plus, mais
bah oui.
Bon,
c'est
le,
ah, mais le,
voilà, c'est pour des questions, voilà, c'est une question de tradition, de coutume aussi. J'aime bien mes coutumes. Tuer un animal en hiver, ben, ça permet d'éviter, comment dirais-je, d'éviter des modes de conservation qui sont énergivores. Voilà, c'est des coutumes fermières et très rurales.
Voilà. Par contre, pour les victimes, ça ne change rien. Qu'on les tue en hiver ou en été, je pense que pour les animaux en eux-mêmes, de toute façon, au moment de planter le couteau, il y a toujours souffrance. Et pour eux, de leur point de vue, effectivement, ça ne change pas grand-chose.
J'entendais tout à l'heure madame de la Bruyère.
Isis la Bruyère, hein, y a pas la particule. Hein. Isis la Bruyère.
Isis la Bruyère, oui.
On oublie.
Alors, on oublie, oui, d'accord. J'entendais dire, comment dirais-je, qu'elle vivait dans une ferme, qu'elle voyait des mères malheureuses parce qu'on séparait les petits des mères. Je le fais, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. C'est à un moment donné, les mères se séparent de leur, comment dirais-je, même les bovins. Je consomme pas de bovins, par exemple. Mais bon,
Mais vous dites, quand on est éleveur d'animaux, de toute façon, c'est indispensable qu'il y ait séparation. Mmh. Du coup, on peut pas faire autrement, Sylvain.
Ah, dans l'élevage, dans l'élevage, oui, c'est nécessaire. Parce que c'est l'élevage qui est conçu comme ça. C'est l'élevage industriel qui est conçu comme ça. Mmh. Maintenant, dans l'élevage un peu plus traditionnel, non, c'est pas nécessaire de séparer les animaux. Sauf à un moment, il y a le gain de place, et puis les animaux prennent leur indépendance assez rapidement. Il arrive de rejeter leur mère, de se rejeter entre frères et sœurs.
Oui, c'est le sevrage, voilà. Mais ça intervient bien plus tard, effectivement.
En post-sevrage, oui, c'est ce qui arrive, c'est ce qui arrive fréquemment. Maintenant, encore une fois, on n'est pas obligé de les tuer, on n'est pas obligé de les élever avec le seul but de les emmener dans un abattoir. On peut les élever pour sa consommation. Ah oui, non, mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et puis, je tiens à dire aussi pour l'association L214, oui. Dès qu'ils postent une vidéo, le monde agricole est au courant. Hein.
Eh oui, parce que ça peut faire...
être au courant.
Eh hein. Oui, bien évidemment, et parce que ça peut aussi faire du mal au monde agricole. Et parfois,
le but, c'est de les inciter aussi à changer des pratiques qui sont déjà parfois contre la loi, ou tout simplement contre le bon sens, contre nos valeurs de respect, de non-violence. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques à l'heure actuelle, donc c'est encore plus visible dans les élevages intensifs ou dans les abattoirs, mais ça peut aussi intervenir même dans les petits élevages. Il y a beaucoup de choses qui sont juste insupportables à regarder, et finalement nos images, effectivement, elles les met face aussi ce monde agricole, ça les met face aussi à leur responsabilité.
Voilà, de revenir à quelque chose de plus local et de plus intimiste, peut-être ce qui se passe dans l'élevage de chez Sylvain dans la Marne. Merci beaucoup Sylvain d'avoir été avec nous ce soir. Dans un instant, nous serons avec Alexandre qui est militant de la cause animale, et vous peut-être aussi qui nous écoutez ce soir, quelle est votre façon à vous de lutter en faveur de la défense des droits des animaux? On attend vos appels et vos témoignages. On se dit tout autour de la cause animale au 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout, Ségolène Aluny.
Et on parle d'engagement ce soir, attention, d'engagement pour une cause, et en l'occurrence celle de la cause animale. Vous militez pour la défense des animaux, expliquez-nous pourquoi, comment ça s'est fait, et puis aussi qu'est-ce que ça vous procure. On peut en parler hein, de ça aussi. Être militant, est-ce que ça vous donne de la force, avoir une mission pour défendre une cause? Ça donne de l'espoir, une raison aussi de se lever chaque matin. Isis la Bruyère, c'est un petit peu votre
cas. Vraiment, ça donne un sens à la vie de savoir qu'on fait quelque chose de bien, qui aide les autres. Et même si ces autres, ce sont des animaux, c'est pas moins important pour autant. Permettre qu'on étende le champ de notre bienveillance, c'est bénéfique pour la société entière, les animaux et les humains.
Isis la Bruyère, qui est notre grand témoin ce soir, membre de l'association L214, qui milite donc pour la protection des animaux. Nous sommes à Paris pour un témoignage d'Alexandre. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes militant de la cause animale, vraiment, puisque vous organisez des manifestations?
Oui, tout à fait. Alors ça va faire 2 ans et demi que je milite à Paris pour la cause animale, et ça fait à peu près 1 an que j'organise assez régulièrement des tractages ou des happenings, donc c'est des actions un petit peu plus importantes, avec des comptoirs d'information, des panneaux, des banderoles, donc voilà.
Et du coup, vous voulez sensibiliser le public à quoi exactement? La cause animale, c'est vaste. Donc
Oui, tout à fait, pardon. Alors nous, on essaye de faire de sensibiliser le public donc aux souffrances que subissent les animaux dans les élevages. On est très centré hein, sur les animaux de consommation et on essaye aussi d'orienter notre discours hein, sur l'antispécisme hein, qui a été défini au début de cette émission, il me semble.
Oui. Voilà. L'antispécisme, donc, de pas faire une hiérarchie entre les différentes espèces animales. Donc, c'est tout récent, finalement, votre engagement, Alexandre. Enfin, un an, c'est beau, mais ça reste relativement récent. Ça a été quoi l'élément déclencheur, le déclic? Pourquoi vous vous êtes lancé à corps perdu dans cette initiative?
Alors, en fait, moi, ça va faire 3 ans et demi que je suis vegan.
D'accord.
Et quand j'étais en prépa, j'étais amie avec un garçon qui militait. Du coup, moi, je l'ai rejoint dans ses actions et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Donc, vous parliez d'épanouissement, vous parliez de satisfaction et c'est vrai que quand on descend dans la rue, on sent beaucoup, beaucoup de satisfaction de réussir à donner un tract à quelqu'un, un tract qui porte un message particulier, un message dans lequel on se retrouve parfaitement et c'est très très satisfaisant de décider de dire quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas pour peut-être un jour réussir à obtenir ce que l'on souhaite pour les animaux.
Et alors aujourd'hui, maintenant que nous sommes en 2017, Alexandre, comment est perçu quelqu'un qui justement fait du tractage et vegan par le public, les gens que vous rencontrez, vous sentez qu'il y a de la réception ou il y a encore du boulot entre guillemets? Comment ça se passe?
Ah oui. En fait, je sens vraiment la différence parce que, comme je vous ai dit, j'ai commencé à militer il y a 2 ans et demi. Et il y a 2 ans et demi, on s'excusait presque hein, de militer pour les animaux. Il fallait introduire avec beaucoup de délicatesse ce sujet-là auprès des passants. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Les vidéos d'L214 ont fait du bon boulot hein, sur cet aspect-là. Maintenant, les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on est dans la rue. Ils savent de quoi on parle. Ils savent quelle souffrance est-ce qu'il y a derrière notre acte, derrière notre présence dans la rue. Et du coup, maintenant, c'est vrai qu'on peut encore avoir, évidemment, encore des réactions négatives, des gens qui nous disent « Ah, je m'en fiche des animaux, moi je mange des animaux. » Mais c'est pas la majorité. La majorité des gens que l'on croise, il y a beaucoup de gens qui sont végétariens, véganes. Alors c'est peut-être spécifique à Paris, hein, mais il y a beaucoup de gens aussi qui nous disent « Ah vraiment, c'est très bien ce que vous faites, je vous encourage, c'est très bien ». Et ça se confirme, hein, on a beaucoup de dons à chaque action, parce que quand on fait des actions avec un comptoir, on a notre petite tirelire, et la tirelire, il me semble que c'est un bon indicateur. Hein. Il y a 2 ans, on n'avait pas autant d'argent, même si ça reste des dons ponctuels, des petits dons. Maintenant, la caisse se remplit beaucoup plus.
D'accord.
Et on a beaucoup plus de retours positifs, oui.
Ah bah, c'est tout à votre honneur. Et du coup, ça vous prend beaucoup de temps? C'est vous faites ça en à côté ou du coup vous donnez vraiment tout votre temps dans cette ou je sais pas. D'ailleurs, vous avez monté une association, Alexandre?
Non, moi je fais juste partie d'un groupe Facebook hein, qui recense hein, toutes les actions qui peuvent se dérouler sur Paris. Donc ça m'arrive hein, de dire sur le groupe Facebook, venez tel jour à telle date. À telle heure. Mais moi, je suis professeur, hein, donc je ne passe pas ma vie dans la rue. Non, c'est de façon très ponctuelle. Hein,
On a perdu Alexandre. Bon, bah voilà, de toute façon, je pense qu'on est arrivé au bout du témoignage. Alexandre qui nous appelait de Paris. Et je voulais rebondir là-dessus, d'ailleurs, Isis La Bruyère. C'est vrai que l'engagement, ça peut aussi tout simplement... Bon, là, Alexandre était tout de même très investi, mais ça peut aussi passer par le simple fait de faire savoir, de follower, comme on dit dans le langage Twitter, des réseaux sociaux, partager des articles, créer un blog. Tout simplement, depuis chez soi, on peut militer quelque part.
Absolument, en tant qu'on contribue justement à ce que le débat soit ouvert sur la cause animale, on milite, et même avec nos proches, quand on se permet de dire pourquoi on est végétarien ou pourquoi on a réduit notre consommation de viande, pourquoi on veut épargner la vie de certains animaux, eh bien déjà on contribue aussi à ouvrir le débat, et c'est ça qui est important à l'heure actuelle, que les animaux ne meurent plus dans l'indifférence la plus totale, mais qu'on puisse en parler, qu'on puisse se poser des questions. Voilà, c'est pas légitime à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison de manger de la viande puisqu'on n'en a pas besoin, donc il faut que le débat soit ouvert, et puis bien sûr aussi sur les pratiques, puisqu'il y a des pratiques d'un autre temps qui se pratiquent dans les élevages et les abattoirs, et il est temps vraiment de tirer un trait sur tout ça, d'aller de l'avant vers une société plus pacifiée.
Voilà, Isis La Bruyère, notre invitée ce soir, membre de l'association L214. Dans un instant, nous aurons un témoignage depuis le Limousin, c'est le témoignage de Patrice qui va se confier donc sur France Bleu ce soir au 0810 055 056. Vous aussi, vous pouvez vous exprimer
Si vous avez ressenti un jour le besoin d'agir pour la cause animale et aujourd'hui justement vous agissez de façon concrète, on attend vos témoignages avec Isis ce soir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout, Ségolène Aluni.
Vous ne cautionnez pas l'exploitation des animaux et vous avez du coup opté pour une alimentation végétale, vous vous êtes rallié à un organisme, une association pour lutter contre l'expérimentation animale. Vous ne portez plus de fourrure ni de cuir. On parle de la cause animale et de votre engagement éventuel pour la défense des droits des animaux ce soir avec notre invitée toute trouvée, membre de l'association L214. C'est Isis Labruyère qui est à votre écoute au 0810 055 056. Et nous sommes avec Patrice, comme promis, dans le Limousin. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
Alors Patrice, vous, un petit peu, on avait eu un auditeur en début d'émission aussi, qui une auditrice qui récupérait des chevaux. Vous, c'est votre cas aussi, vous récupérez des chevaux et des veaux que vous sauvez de la boucherie.
Oui, voilà, moi à la base, je suis cavalier. C'est vrai que bon, j'étais en région parisienne et je viens d'acheter une exploitation dans le Limousin. Et c'est vrai que bon, je suis arrivé avec mes chevaux, j'en ai une dizaine. Et c'est vrai que quand je vois tout ce qui se passe, j'ai des poules de réforme, j'ai des chèvres qui sont plus ou moins abandonnées, j'ai des ânes, tout ça. Et moi, j'ai manifesté aussi auprès de L214 pour les vaches gestantes à Limoges. Et c'est vrai que je me dis aujourd'hui, franchement, il n'y a plus de respect, tout est au niveau profit. On doit produire trop par rapport à ce qu'on a besoin de consommer et on retrouve des animaux coupés en morceaux dans les poubelles des supermarchés, tout ça, et je trouve ça un peu lamentable. Je pense qu'il faudrait réfléchir à tout ça, quoi, parce que c'est vrai que je sais pas comment dire les choses, hein. C'est vrai que moi j'ai récupéré aussi des moutons, j'ai un peu de tout. Bon, je fais ça tout seul, hein. Voilà, c'est mon, moi j'ai une pension de chevaux, voilà, je gère tout ce que je peux. Mais c'est vrai que franchement, à un moment je suis obligé d'arrêter parce que je peux pas sauver toute la misère du monde. Mais ça me révolte énormément, quoi, parce que je pense qu'il n'y a plus du tout scrupule quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Je me dis les animaux par rapport aux êtres humains, voilà, quoi, c'est ça qui me...
Oui, je partage bien votre point de vue et je tenais vraiment à vous remercier aussi d'avoir été mobilisé à nos côtés sur cette manifestation à Limoges. Pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, donc en novembre, l'association L214, on avait révélé grâce à un lanceur d'alerte, donc un monsieur qui travaillait à l'abattoir de Limoges, qu'en réalité, beaucoup de vaches arrivaient sur le point de mettre bas et que donc après la saignée, leur ventre était vidé et les utérus étaient donc jetés à la poubelle avec les fœtus parfois viables et prêts à naître de petits veaux qui finissaient donc dans les poubelles. Et c'est une pratique qu'on aurait bien aimé faire interdire. Malheureusement, pour l'instant, ça n'en prend pas encore la voie au niveau du Parlement. Mais c'est vrai que c'est une chose parmi de nombreuses, malheureusement, qui sont révoltantes. Et en tout cas, merci de vous mobiliser contre ça, parce que c'est vrai que voilà, c'est important, quoi.
C'est clair, mais bon, c'est vrai qu'on fait ce qu'on peut, mais bon, ça a pas l'air de bouger beaucoup, parce que j'ai cru voir sur Facebook que les caméras dans les abattoirs, c'était plus ou moins c'était pas vraiment d'actualité.
Ça va être mis en place, ça, en 2018, les caméras obligatoires dans les abattoirs, Isis.
Bon, la loi n'est pas votée définitivement, il faut maintenant qu'elle soit acceptée par le Sénat et qu'elle soit pas rognée un peu plus, parce que déjà, entre le rapport de la commission d'enquête, qui était quand même un peu plus ambitieux que cette proposition de loi, il y a beaucoup de choses déjà qui ont disparu. On voit en commission économique que beaucoup de propositions qui auraient permis quand même de mettre des petits pansements sur cette situation catastrophique, même si bon, les animaux auraient de toute façon continué à être tués sans raison. Mais là, la loi telle qu'elle est en train d'être discutée, effectivement, elle ne permet pas de changement significatif dans les conditions de vie et de mort des animaux.
Patrice, c'est arrivé quand pour vous, en tous les cas, c'était quoi l'élément déclencheur? Vous vous êtes dit, je vais héberger des animaux pour les sauver.
J'étais horticulteur paysagiste. C'est vrai que j'ai adoré faire du cheval. Et c'est vrai que monter dans des clubs, c'était une chose, mais avoir son propre cheval, c'en était une autre. Donc c'est vrai que mon premier cheval, c'était un trotteur. Et il partait à la boucherie à l'âge de 3 ans, quoi. Donc ça m'a un peu révolté. Et le premier a poussé le deuxième, le troisième. Et c'est vrai que j'en suis arrivé à 10. Moi, j'ai travaillé dans un centre équestre. Et c'est vrai que j'avais un patron qui exploitait plus ou moins les chevaux. Et arrivé à un certain âge, plus bon à rien. Et au lieu d'essayer de les recaser parmi les cavaliers qui auraient bien aimé peut-être de les avoir, il appelait le camion de boucher il appelait le camion de marchand de chevaux. Ces chevaux-là, au bout de 15 jours, s'ils n'étaient pas casés par le marchand de chevaux, ils partaient à l'abattoir, quoi.
Oui, donc ça, ce sont des pratiques qui existent encore bel et bien. Ah
oui,
la bruyère,
c'est courant, ouais, malheureusement.
C'est hyper courant,
ouais. Quand on considère que l'animal doit nous servir et non pas qu'il vit pour ses propres intérêts, effectivement, souvent, sa fin de vie, eh bien, on ne lui permet pas d'avoir une retraite ou quoi que ce soit, simplement, on le passe sous le couteau.
Et juste pour terminer, Patrice, du coup, vous êtes perçu comment par vos voisins, par votre entourage? C'est l'arche de Noé chez vous?
C'est très, très compliqué parce que, voilà, moi, je suis dans une région où il y a beaucoup, il n'y a que de l'élevage de bovins, de moutons, tout ça. Et c'est vrai que franchement, bah, j'ai le statut, agriculteur par rapport aux aides, tout ça, c'est un fait. Mm-hmm. Mais c'est vrai que franchement, je suis très mal vu. Moi, j'ai des amis qui sont du côté de Château-Ponsat, qui font l'élevage de veaux de lait. Quand j'y vais, j'ai une boule au ventre. Et quand je repars de chez eux, j'arrive aux portes des 50 ans. Hein, donc, je pleure parce que je me dis, mais franchement, comment on peut faire ça, quoi? Parce que retirer le veau à sa mère, et le foutre dans une case et le faire téter deux fois par jour. Et bon, le veau, quand il a, je sais pas moi, une trentaine de vaches et qu'il doit trouver sa mère, ça marche à coups de bâton, je trouve ça lamentable, quoi.
Et vous essayez d'en discuter justement avec ces gens où la discussion n'est...
Mais directement, moi je suis le Parisien qui arrive de sa banlieue et que bon, c'est des pratiques qui sont ancestrales et c'est vrai que franchement, même moi je vois, bon, j'ai récupéré une dizaine de moutons quand j'ai acheté mon exploitation, et c'est vrai que j'ai une dizaine de moutons aujourd'hui, et c'est vrai que quand je fais l'étoile d'araignée de ma bergerie, et que l'ancien propriétaire vient me voir, il me prend pour un barge, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu... J'essaye de leur apporter autre chose de tout ce qu'ils ont vécu, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que dans le Limousin, voilà, quoi, c'est un peu sectaire. Déjà, l'intégration, c'est pas facile. Et c'est vrai que franchement, bon, c'est des fermes les unes à côté des autres. Bon, il y a les hectares qui nous séparent, mais c'est très, très compliqué, quoi.
Ouais. Donc, vous êtes la touche parisienne dans le Limousin.
Ah voilà, c'est la touche parisienne et c'est vrai que bon bah je suis plus ou moins appelé la Brigitte Bardot du Limousin, mais bon voilà quoi, c'est des causes que je comprends pas qu'on puisse en 2017 on était toujours au même point. J'ai l'impression qu'avant au Moyen Âge ils tuaient pour manger, ils tuaient par nécessité, qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est devenu c'est devenu un effet de mode, je sais pas du tout comment expliquer le truc, mais bon, moi, c'est des choses qui me révoltent complètement, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour mes animaux, et quand je vois d'autres bêtes souffrir, c'est vrai que je peux pas sauver toute la terre, hein. C'est sûr que c'est compliqué.
Mais vous faites votre max, et ça, c'est beau. Si tout le monde en faisait autant, eh bien, on n'en serait pas là. Mm. Donc, c'est déjà génial.
Donc, bravo pour votre action, notre Brigitte Bardot du Limousin. Donc, Patrice, merci beaucoup pour votre appel. Vous aussi, qui nous écoutez ce soir, on se dit tout autour de la cause animale, au 0810 055 056. N'hésitez surtout pas à faire appel à nous pour discuter avec notre témoin ce soir. Il vous reste 20 minutes. Isis Labruyère à votre écoute. Isis qui est membre de l'association L214.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
On se dit tout sur le fait de défendre les droits des animaux, parce que oui, ils en ont, et c'est pas notre grand témoin ce soir qui va me contredire. Isis Labruyère, qui est membre de l'association L214, qui a fait beaucoup parler d'elle, notamment l'an dernier, en février dernier, avec l'affaire sur l'abattoir du Vigan. Donc vous connaissez un petit peu l'association L214. Elle est à votre écoute ce soir, et nous sommes près de Cambrai, chez Thierry. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, vous êtes président d'une association, l'association de Canicross. Donc,
oui.
Cani, j'imagine, bon, c'est une association pour les chiens, du coup, ça... Expliquez-nous.
Tout à fait, oui. Canicross, en fait, c'est courir avec son chien, quoi, accompagner son chien.
D'accord.
Voilà, c'est un sport qui commence à se développer, et puis pas mal. Et puis, voilà, on est une petite vingtaine dans le club d'adhérents.
Oui.
Et puis il y a des marcheurs, il y a des coureurs. Nous on est attelés en fait comme un équipement, comme un chien de traîneau. Le chien est attelé à nous et puis on l'emmène gambader, quoi.
D'accord. Voilà. C'est vous qui avez créé cette association, Thierry?
Oui, tout à fait. Oui, il y a un an, un peu plus d'un an.
D'accord. Et suite à quoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une association pareille?
Si vous voulez, je courais déjà. Bon, ça fait plus de 15 ans que je cours et je courais toujours avec mon ancien Labrador. Je l'emmenais avec moi puis il courait à côté de moi, quoi. J'en ai toujours avec moi courir. Et puis j'ai découvert le Canicross il y a un peu plus de 2 ans, grâce au club de la SLA d'Arleux, sur Arleux, un gros club qui a 11 ans d'existence. Et puis bah Benoît il me dit bah écoute bah crée ton pour que tu crées pas ton club dans le Cambrésis, il y a pas de club et puis bon voilà quand ça en est venu, j'ai fait un premier canicross au profit du Téléthon la première année. Mm-hmm. Et puis, ça a super bien fonctionné donc bah j'y allais.
Et du coup, par rapport à la cause animale, en fait, vous vous investissez, parce que vous favorisez les adoptions et, oui, voilà, donc, et vous sortez des chiens des refuges, c'est voilà, ça surtout le point.
J'avais ma nièce qui n'avait pas de chien, donc et elle voulait absolument, ça lui plaisait, quoi, le canicross, donc bah, je suis passé au refuge, et de là, bah, on a pris un chien du refuge, puis après, quand j'ai vu tous les chiens qui étaient là, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Donc voilà, quand j'en ai discuté avec le président de la SDA d'Estourmel, et puis on a créé, s'il y avait possibilité, il y avait un petit parcours, de trouver un petit parcours autour du refuge, par les chemins près d'Estourmel. Du coup, on a trouvé un parcours qui fait 5 km, et tous les samedis, on est présent au refuge de 14h à 16h, et on sort un maximum de toutous, et puis bon puis voilà, puis il y a des gens qui repartent avec, sur le parcours ils tombent amoureux de l'animal, et puis voilà, et puis ils partent avec leur toutou, quoi.
D'accord, et ils repartent avec après la sortie, la course.
Ouais, je sais pas, depuis là ça doit faire à peu près 5-6 mois, il y a eu une vingtaine d'adoptions, je pense.
D'accord. Et vous faites ce qu'on appelle des opérations refuge vide.
Ça, oui, voilà, je connaissais donc, pas. C'est pareil, c'est l'idée. C'est une idée qui m'est venue aussi. Ben, on l'a fait pour le Noël des animaux qui a eu lieu 15 jours avant Noël. Donc c'était une journée porte ouverte. Et j'ai dit, bah, tiens, il fait qu'il y avoir du monde, j'en ai parlé autour de moi. J'ai dit, je vais faire opération refuge vide, je voulais emmener tous les chiens en balade. Mmh. Ils sont sur l'œuvre, ils les sortent. Mais ils les sortent une vingtaine de minutes par jour là, dans le refuge. Et moi, je voulais vraiment les emmener en balade pendant une bonne heure, une heure et demie en balade là, pour les marcheurs. Mmh. Et je voulais vraiment que tous les chiens, ça m'embête tout le temps à chaque fois. Bon, tous les samedis, on est entre 10 et 15, selon. Bon, parfois, on est une petite vingtaine. Mais il y a toujours, on peut pas emmener tous les chiens, malheureusement. Mmh. Donc là, j'ai dit, allez, on va faire opération pour l'heure de Noël, on va faire opération au refuge vide. Il y avait 64 chiens, et donc sur les 64, on a sorti 60 chiens. Parce qu'il y en avait 4, malheureusement. Bah, sur les 4, il y en avait 2 ouais. qui étaient atteints de. Un qui avait une tumeur, et puis bon, un autre qui était paralysé du train, rien.
Et Thierry, du coup, le fait que vous ayez monté cette association et que vous fassiez toutes ces opérations, c'est une véritable dévotion envers la cause animale. Vous en faites un principe de vie, vous, Thierry?
Ah oui, c'est vrai que. Voilà, quoi, moi, j'adore les animaux en général. Alors donc, voilà, quoi, c'est vrai que c'est. Je comprends pas qu'on puisse faire du mal comme ça Même les oiseaux, c'est un peu étrange, mais même le pain, là en ce moment que c'est l'hiver, quand il y a du pain un peu rassis, on met le pain dehors pour les oiseaux.
Ça vous choque, ça, Thierry?
Ah ouais, bah oui, parce qu'ils ont là pour une période d'hiver comme ça, hivernale, souvent les oiseaux ont du mal à trouver de la nourriture, donc.
Oui. D'accord.
Quand il nous reste du pain, hop, on met le pain dehors, on émiette le pain, on le met dehors, et puis on voit tous les merles, tous les petits piafs qui viennent. Ouais. Ils peuvent se nourrir aussi, quoi.
Ouais. Merci beaucoup, Thierry, pour votre témoignage. Merci pour l'action aussi que vous faites. C'est vrai, ça, les refuges, c'est un vrai problème aussi, rapidement.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut pas acheter les animaux, il faut les adopter, effectivement, si on a la possibilité d'avoir un espace de vie pour eux. Et Thierry nous parlait des oiseaux. Faut pas oublier aussi ceux qui sont surnourris, pour le coup, dans les élevages. Donc, les canards et les oies qu'on gave pour la production de foie gras, c'est simplement de la torture. Et puis, les nombreux poulets de chair et poules pondeuses qu'on exploite aussi, dans des conditions vraiment désastreuses. Voilà, c'est aussi des animaux auxquels il faut penser, même si on ne les voit pas.
En tous les cas, merci beaucoup Thierry pour votre témoignage et encore bravo pour votre association de Canicross, donc tout près de Cambrai. Merci à tous d'ailleurs d'avoir participé à cette émission. On se dit tout, bien évidemment, ça serait écoute, sur la cause animale ce soir, et vous réagissez au 0810 055 056.